Il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève. Et cette année, il y a un nouveau générique.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, si on m'avait dit un jour qu'il y aurait 4 saisons de la relève, pas sûr que je l'aurais cru. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de découverte avec des nouveaux talents. Et on commence en parlant de mystère, de lumière et de salle obscure. Mon invité est acteur. Et on ne danse pas dans le studio. Bonjour Timothée Robard.
Bonjour.
Vous aimez danser, vous ?
Oui, c'est ça.
On vous a vu cet été au cinéma pour la première fois, si je ne me trompe, dans Vif Argent, qui est un film de Stéphane Batu, dont c'est lui aussi le premier film, c'est ça ?
Tout à fait.
Mais revenons à vous. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce film ?
Tout bêtement. Enfin, j'avais fait un casting pour un ami de ma mère qui faisait un casting il y a 4 ou 5 ans. Il cherchait un mec de 17 ans, un truc comme ça. Et ma mère m'avait dit, vas-y, cherche un mec de cet âge-là, donc va faire le casting. Et j'étais en mode, je vais y aller, ça va être marrant. Mais ce même directeur de casting m'a rappelé, parce qu'il travaillait aussi au casting sur ce film-là, et en me disant, du coup, il y a un an et demi maintenant, en me disant, ça te dirait de passer faire un casting. Et je me suis dit, pourquoi pas, ce serait qu'on peut y aller. Et j'y suis allé, puis j'y suis retourné, puis j'y suis retourné, puis finalement, ça...
C'est long?
C'était long.
C'est long entre le premier casting et le début du film.
En fait, la première fois, j'y suis allé. Et après, ils m'ont rappelé une semaine après en me disant viens encore, vas-y, apprends ce texte-là. Et du coup, j'ai appris le texte dans la journée avec un copain dans un placard au BTS.
Vous étiez en BTS donc ?
Ouais, en BTS audiovisuel. Et après, pendant 3 semaines, j'ai pas eu de nouvelles. Et du coup, je me suis dit c'est mort. Donc, en fait, j'avais une grosse tignasse toute bouclée. Et j'en avais marre de cette tignasse. Du coup, j'ai tout rasé. Et le soir même ou le lendemain, il m'appelle en me disant ça dirait de revenir pour le casting. Et
je dis
désolé, j'avais plus de cheveux en fait. Il dit c'est pas grave, tu reviens. Et puis finalement, il a bien aimé. Du coup, j'ai gardé le crâne rasé pendant tout le film.
Est-ce que vous aviez déjà pris des cours de théâtre, j'entends bien sûr. Jouer en amateur peut-être.
Quand j'étais en 6e, j'avais fait un atelier théâtre le midi.
C'est comme c'était très loin, même si vous êtes très jeune. Donc c'était pas quelque chose qui vous travaillait. Vous rêviez pas d'être d'être acteur ?
Non, pas du tout.
C'était parce que ça vous semblait inaccessible, ça vous...
Non, parce que j'avais pas envie. Mes parents ils sont comédiens, du coup le métier il fait pas tellement envie quand on.
Ah oui.
Enfin c'est pas très facile à vivre comme métier quoi.
Ah bon ?
Non.
Je sais pas, non, c'est pas.
Moi, du coup je suis pas comédien non plus. Hein. Je fais l'acteur quand on veut bien que je le fasse, mais sinon je préfère ne pas le faire. Enfin, je le fais avec grand plaisir quand on se présente, mais
c'est pas quelque chose que vous cherchez. C'est rigolo, quoi. C'est vraiment le truc où on arrive à avoir ce qu'on cherche pas finalement. Ça vous a donné peut-être une certaine liberté que vous auriez pas eu si vous aviez voulu le rôle à tout prix.
Ah, c'est sûr. Je pense que si j'avais voulu être acteur, Stéphane il l'aurait vu, il se serait dit c'est pas pour moi ça.
Le premier jour de tournage, quand vous êtes vu à l'écran, vous avez réagi comment? Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des écrans. Ah non, pas là, il n'y en avait pas.
Il y en avait un, mais moi, je ne l'ai pas voir.
Jamais ?
Non.
Vous n'avez rien vu avant que le film soit monté, par exemple ?
J'ai vu, à un moment, j'ai vu ma tête sur un petit écran, mais sinon, je n'allais pas voir.
C'était un choix, ça vous fait peur ça...
Non, mais c'est juste qu'en général, comme j'étais de tous les plans, pratiquement, en fait, j'avais pas tant que ça d'aller voir les trucs. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, autant pas aller nourrir mon narcissisme, aller me mater sur un petit écran. Quoi.
Non, mais ça peut aussi, peut-être, ça aurait pu vous déstabiliser, non ? Se dire non.
De toute façon, si je m'étais vu sur un écran, j'aurais pas eu le son avec, donc ça aurait pas. Puis enfin, c'est.
Ah, et vous, c'est le son qui vous intéresse.
Non, je veux dire, le jeu, ça joue. Le jeu, ça marche aussi avec le son et l'image, quoi. J'ai vu 3 images à par-ci par-là, mais sinon, j'ai pas.
J'ai lu que le metteur en scène avait été directeur de casting dans une vie antérieure. Vous savez s'il castait de cette façon-là pour faire des films comme il vous a casté, vous
Alors, il continue de faire ce travail de casting, parce que c'est son métier quand même, c'est ça qui le fait vivre, parce que réalisateur, c'est bien gentil, mais c'est pas la même chose quand il faut payer son loyer à Paris, quoi. Je crois que. En fait, lui, il a écrit le film en s'inspirant de ses méthodes de casting. En fait, dès qu'il faisait ses castings, il demandait aux gens de raconter un souvenir. Je bois une petite gorgée d'eau.
Mais allez-y, buvez. Allez, n'hésitez pas. On n'entend rien, vous savez, vous faites du son, donc tout va bien.
Ah, mais je vous jure qu'on l'entend, et je l'entends dans mes oreilles, du coup. Mais du coup, lui, pendant qu'il cotisait du casting, il demandait aux gens de raconter un souvenir, et du coup, il a écrit le film en s'inspirant des souvenirs des gens qu'il avait entendus.
Et donc, lui, vous a demandé un souvenir ?
Ouais.
C'est pas indiscret de vous demander lequel.
Je sais pas ce que j'ai dit.
Vous rappelez pas. Vous l'avez peut-être inventé, le souvenir.
Non, j'étais honnête, mais je sais plus ce que c'était.
Bon, on a le droit d'inventer un souvenir de devant un metteur en scène. Vous étiez Perchman, c'est ça?
J'étais en études pour le devenir en partie. En BTS option son à Boulogne, bien court. Mais je suis toujours, c'est toujours mon but. Après, ça m'a réussi un peu moins bien que le métier d'acteur pour l'instant. j'ai fait des stages, etc. Mais là, il serait bien si les ingénieurs pouvaient m'appeler un petit peu pour.
Vous n'arrivez pas à trouver des stages?
J'ai trouvé des stages et maintenant, il faut que j'en ai fait un dernièrement en mars-avril.
Ouais.
Et après, j'ai fait quelques courts-métrages pour des copains à la perche et tout ça. Mais
vous voulez faire d'ingénieur du son dans le cinéma? Vous voulez pas travailler à la radio?
Non.
Non, mais c'est pas grave.
Pardon, oui, enfin, vous n'êtes pas Guillaume? Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui s'est envolé.
Je suis désolée de vous avoir suivi. C'est au sujet du jeune auquel tu ressembles.
Si t'étais passé à côté d'une chose dans le passé, que tu puisses remonter dans le temps, qu'est-ce que tu ferais?
Agathe?
T'as plus personne dans la maison?
Non, personne.
Tu crois que le sexe est contre-indiqué?
Pas que je sache.
J'ai compris pourquoi vous m'avez fait revenir parmi les vivants.
Je vois bien que tout ça n'est pas réel, que ce qu'on vit n'existe pas vraiment. C'est comme une parenthèse, un secret.
Je suis plus du même monde que toi, Agathe.
Alors là, on est dans le même monde. Je suis toujours avec vous, Timothée Robard, pardon. On écoutait à l'instant la bande-annonce du film dans lequel vous jouez, Vif Argent. Vous entendez quoi? Le son est bien mixé, ça va? Vous êtes content quand vous l'entendez?
Bon, c'est pas à moi de dire ça. Hein.
Ah non, mais quoi. Non, vous avez l'air d'être très pris, ça avait l'air d'être fort pour vous de l'écouter.
Non, mais c'est marrant, ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas vu le film, et du coup, c'est vrai que c'est toujours marrant d'entendre. Enfin, c'est marrant. Puis la musique, enfin, ça rappelle le film, quoi. Parce que mine de rien, c'est quand même pas rien, en fait. Mais,
voilà. De quoi qui n'est pas rien?
Bah, de jouer dans un film comme ça.
Sans doute, oui.
Oui, non, c'est marrant, j'avais pas entendu le son depuis quelques temps. Mais...
Et est-ce que c'est particulier parce que vous entendez le son sans l'image, justement? Est-ce que vous pensez que s'il y avait des images, ça vous... Parce que là, on est à la radio, on est juste...
C'est vrai que j'avais jamais écouté le son sans image.
Et en plus, la musique est magnifique. Alors, le film, quand même, on va le dire, il a eu un des plus beaux prix du cinéma français, le prix Jean Vigo.
Oui, un prix qui passe quand même sous silence, c'est dommage, le film.
Oui, mais c'est pas...
Mais ça reste un beau prix, tout à fait, avec une très belle liste de réalisateurs qui ont été nommés à ce prix.
Quels sont les acteurs que vous admirez?
Les acteurs?
Ouais. Pas du tout.
J'aime beaucoup Christopher Walken.
Ouais. Il vous inspire?
Non.
C'est celui que vous aimez voir.
Non, je sais pas, là j'y pense comme ça, faire un Belmondo, j'adore Belmondo. J'adore Jean-Pierre Marielle.
Ouais, vous aimez des acteurs qui ont un certain naturel.
Ouais,
en tout cas, Belmondo, il a fait le conservatoire, mais il donne l'impression d'une aisance, c'est ça qui vous plaît?
Je sais pas, ceux qui ont la classe, quoi.
ils ont la classe. Et les cinéastes que vous aimez?
Bon, il y en a quelques-uns quand même. Si je devais en citer quelques-uns, je dirais Jarmusch, Wim Wenders.
Oui, donc là, vous étiez dans un... C'est pas forcément des gens qui ressemblent à... Alors, pardon, j'ai oublié son nom, le réalisateur de Stéphane. À Stéphane, mais c'est quand même des gens qui travaillent beaucoup l'image, qui ont une démarche très, très travaillée.
Ouais, mais comme tous les réalisateurs, j'imagine.
Oh, pas tous, non.
Non, parce qu'après...
Certains ont après privilégié, mais là, c'est des gens qui sont vraiment des fabricants d'images.
Oui, après, j'adore aussi Cassavetes, par exemple. C'est pas un fabricant d'images du tout, donc... Enfin, je sais pas si c'est...
Quand vous êtes arrivé sur le plateau, en premier jour ou après, que vous aviez pas du tout d'expérience, donc si je comprends bien, depuis la sixième, donc ça commençait à faire beaucoup, et que vous êtes retrouvé face à des acteurs confirmés, il s'est passé quoi avec eux? C'était difficile.
Bah, en fait, le truc, c'est que
Judith, ils ont de la technique.
Judith, elle est super balèze. C'est vraiment. Elle est super forte. Quoi.
Donc, Judith Chemla.
Ouais. Elle est super forte.
Et donc, elle vous aidait ?
Bah, elle est super forte et super généreuse. Quoi. Elle est vachement toujours à dire aux gens, que ce soit à moi ou que ce soit à l'électro, qu'il fait du bon taf. Quoi. Et vachement. Enfin, à se donner vachement, même quand elle est hors champ, à être là pour que moi je fasse mon travail. Quoi, et que. Enfin, vraiment hyper bonne, très généreuse et très à l'écoute et très avec celle la personne avec qui elle joue quoi.
Ouais.
C'était super de travailler avec elle.
Et oui, vous êtes pratiquement pas tous les plans, mais vous êtes très souvent ensemble dans le film.
Bah,
donc ça vous aide beaucoup.
Enfin, finalement, elle était là la moitié du tournage à peu près, je pense. La moitié. Ouais.
Et des gens comme Jacques Nolot, Antoine Chappé qui sont aussi avec vous. Vous avez une scène magnifique avec Antoine Chappé qui est votre père dans le film.
Ouais.
Là, c'est pareil. C'est...
Bah, avec Antoine Chappé, c'est marrant parce qu'en fait, mes parents, ils avaient travaillé avec lui quand j'avais genre un an. Et du coup, il m'avait envoyé un message à mon père en lui disant j'ai croisé ton fils aujourd'hui, il est toujours aussi sympa. Alors que, enfin, il m'avait vu, genre, j'étais un nourrisson, quoi. Et non, mais c'était marrant parce que c'était un mec à l'âge de pratiquement l'âge de mon père. Et qui était, on avait pris on était un peu en banlieue loin et on avait fait le trajet ensemble. Et en fait, en une heure de trajet, on marchait bien, quoi, tous les deux. Et j'arrivais vachement à pouvoir voir une figure paternelle en lui, en fait. Et donc, du coup, au moment de la scène, c'était aussi très simple et c'était super, quoi.
Alors, j'aime jamais trop raconter l'histoire des films ou des livres, mais je vais quand même un peu dire quand même que dans ce film Bif Argent, vous interprétez fantôme, on peut dire. Ça vous va, un fantôme ? Et vous êtes très bon. Et je me demandais comment on fait pour jouer un fantôme ? Parce que là, pour le coup, pour un premier rôle, vous ne pouviez pas vous raccrocher sur... je vais faire comme j'aurais fait dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui n'arrive jamais d'être un fantôme. Comment on joue un fantôme ?
Moi, j'ai pas joué un fantôme. J'ai juste, Stéphane, il a écrit son histoire et c'est un personnage qui était extrêmement propre, vraiment à lui. Et j'ai senti que c'était, enfin, j'ai pas senti, j'ai juste fait ce qui se passait. Mais je voyais que c'était vraiment, c'était lui, quoi. Vraiment, il y avait un truc de lui. Et lui, il m'a choisi en conséquence en voyant en moi.
Il a senti que vous pouviez l'incarner assez naturellement. Parce que c'est l'impression que vous donnez. Vous avez un naturel incroyable.
Mais j'ai été choisi parce qu'il voyait ce qu'il voyait en moi et j'ai pas eu à pousser plus que ça. Et même maintenant, je suis pas tout à fait. Il y a tout ce truc de malaise, etc. Mais là, en ce moment même, je suis pas tout à fait moi. Je suis un peu malaisé parce que je dois parler devant le micro avec des gens qui vont peut-être écouter. Enfin, tout ça, ça me.
J'espère.
Inch'Allah. Mais c'était toujours. Je ne me suis pas forcé parce que c'était très proche de ce qu'il avait vu en moi.
Mmh. Et vous l'avez travaillé, justement, cette manière d'être ? Parce que moi, ce que je trouve étonnant, c'est la manière dont vous vous déplacez. Vous avez pris des cours. Je me demandais, mais vous n'avez pas travaillé avec un chorégraphe ?
Non. Bon, en fait, on s'est vu quelques fois pendant le mois, deux, trois semaines avant de commencer le tournage, donc on faisait des répétitions régulières. Et c'est vrai que. On avait parlé de la façon de se déplacer, mais en fait, finalement, avec des rangers, eh ben, c'est comme ça qu'on marche, en fait.
C'est les chaussures qui ont fait cette manière qui vous
donne... Il voulait un peu, il me disait, ouais, ça serait bien que tu imites un peu James Dean dans La Fureur de vivre, etc. Et du coup, j'avais un peu essayé, quand on était en répétition, on disait, vas-y, fais comme ça, dégrange-toi un peu. Et donc, il me disait, ouais, ça c'est bien, mais en fait, au moment du tournage, c'est vrai que peut-être que... Enfin, j'essaie de donner une énergie un peu similaire, mais finalement, c'était pas, j'ai pas travaillé.
En fait, vous nous révélez un truc, c'est que si on veut avoir une démarche élégante dans la vie, il faut porter des rangers.
Ah, vous trouvez ça élégant ?
Ah ouais, vous avez une espèce de classe quand vous vous déplacez à l'écran. Ouais, ouais.
Ah non, mais ça c'est ma classe naturelle, ça. I got the gift to gab, but when you shine your spotlight on me, my little microphone turns to sand. And I've killed little baby rabbits, I've killed microscopic crabs, but I never killed a feeling like the one you and me had. Now did you see where my love went? Because it ain't here in my hand. You need to drag that doll in between your legs. I couldn't bear another needy man. I got friends in Kansas City with a motherfucking futon couch. If that's how you wanna play it, I'm drinking in the dark because my battery's all running out.
essayer tes forces. And I go weak with constipation from all the pills and the spam. Though we drink our mother energy, there ain't no woman for the needy man. Oh, did you see where my love went? Because it ain't here in my head. You need to check that, darling, between your legs. I couldn't bear another needy man. In Kansas City with a motherfucking futon couch. If that's how you wanna play it, I'm drinking in the dark because my battery's all ran out. All you gotta do is say your divorce, divorce, divorce. All you gotta do is say your divorce, divorce, divorce. All you gotta do is say your
C'était Metronomy, Salted Caramel Ice Cream, un extrait de leur nouvel album. En 2019, il y a toujours des albums et ça m'étonne toujours. Et ça s'appelle donc Metronomy Forever.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Timothée Robard, l'homme qui est acteur et qui ne voulait pas l'être. Il interprète juste dans Vif Argent, le premier film de Stéphane Batu, qu'on ne peut que vous recommander. Est-ce que vous croyez aux fantômes?
Oui.
Vous en avez déjà vu?
Pas encore.
Mais vous savez qu'il y en a.
Bah, je me doute bien qu'ils sont un peu partis, mais qu'ils peuvent encore. Enfin, je me dis qu'il y a les esprits, tout ça. Enfin, je crois un peu aux trucs qui sont un peu, enfin, qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, quoi. Enfin,
en tout cas, vous êtes pas fermé à ce que vous ne savez pas.
Voilà.
Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais c'est un truc comme ça. Et vous pensez qu'il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas, mais qui arrivent.
Ah, j'en suis persuadé.
Et donc, ce film, c'était peut-être un fantôme finalement qui vous a fait faire ce film. il hoche la tête. Vous pensez qu'un amour mort est toujours un amour fantôme ou est-ce qu'il vit encore? Vous savez, ici des fois on a des questions un peu compliquées.
Je sais pas. Enfin, en plus, si ma copine, enfin, je sais pas ce que ma copine pour interpréter ça.
Non, bon, alors on va pas. Vous voulez vraiment pas être acteur?
Je veux bien le faire un petit peu, ouais.
Mais pas trop.
Je veux bien faire acteur. J'ai pas envie de l'être.
Vos partenaires vous ont aidé. Ouais, et je pensais à Judith Chemla, donc on en parlait tout à l'heure. Il y a cette scène où d'un seul coup elle vous voit plus. Ça, vous l'avez joué comment cette scène-là? Vous voyez là qu'il longe pas. Au moment où vous redevenez invisible, puisque pendant un certain temps elle vous voit.
Le moment où on se réveille après avoir passé une nuit torride.
Voilà. Mmh. Et là, on a vraiment l'impression qu'elle vous voit pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle vous voit pas? Vous êtes caché?
Ah non, elle m'a juste pas vu. Enfin, c'est juste elle. Enfin, elle est toute seule. Hein. Moi, je la vois très bien. C'est à elle qu'il faut poser la question. Voilà.
Vous n'avez pas développé des pouvoirs d'invisibilité?
Non, pas encore.
Depuis, vous essayez? Comment préparer? Alors, j'ai déjà posé la question, mais sur comment préparer un rôle de fantôme qui n'est pas un rôle le plus simple, parce que vous avez regardé des films de fantômes?
Non, j'ai regardé My Own Private Idaho de Gus Van Sant.
Ça, c'est le metteur en scène qui vous l'a conseillé ou c'est
c'est Stéphane qui m'a dit il faut que tu regardes ça c'est important par rapport à ton personnage.
Donc c'est quoi? C'est le rôle de... Comment il s'appelle? River Phoenix?
Ouais, c'est ça. Enfin, ce rôle de clodo mélancolique.
Vous êtes pourtant ni clodo ni mélancolique dans le film.
Ouais, mais je sais pas. Il m'a dit, ça, c'est faut que tu regardes. Et qu'est-ce qu'il m'a dit de regarder d'autres? Je sais plus.
Donc vous n'avez pas regardé. Attention, c'était ma blague. Il y a toujours une blague nulle par émission et c'est maintenant.
Allez.
Vous n'avez pas regardé Casper?
Quand j'étais petit, quoi. Mais évidemment, j'ai été influencé, c'est sûr.
C'est Jim Jarmusch et Casper pour faire ce rôle.
Deux mondes essaient de se compénétrer. Le monde de la vie et le monde de la mort. Ils ne le peuvent pas et c'est le drame.
Aimez-vous cet homme? Aimez-vous cet homme?
Oui.
Le drame d'Orphée.
Elle dit, c'est... ce n'est pas possible.
Une légende célèbre qui ne se passe à aucune époque précise et que Jean Cocteau vous montre sur nos routes, dans nos rues, dans nos maisons.
Mais pas qualité pour vous le défendre. Et si je vous en prie?
J'irai tout de même. Vous ne m'empêcherez pas. Je deviens folle.
Dans nos voitures. Parmi nos objets de tous les jours.
Vous savez qui je suis? Oui. Dites-le.
Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir.
On va reprendre parce que là je sens que j'ai un réalisateur qui va dépérir. C'est un extrait d'Orphée, le film de Jean Cocteau avec Jean Marais et Maria Cazares dans le rôle de Ridley. C'est aussi un film de fantôme, donc celui-là vous ne l'avez pas vu pour vous préparer.
C'est le cinéma classique et elle est pas au top, je peux vous mentir.
C'est pas grave, on n'est pas là pour faire un quiz. On mettra l'intégralité de la bande-annonce pour les masochistes qui veulent l'avoir en entier. C'est un peu quand même un peu vieilli, non? Le son, la manière de jouer aussi.
C'est ce qui fait son charme aussi.
Le film, donc on vient au Vaude Vif Argent, pardon, se déroule dans l'Est parisien, du côté des Buttes-Chaumont. Vous avez l'air très à l'aise, c'est là où vous vivez. C'est un quartier que vous connaissez, c'est un quartier que vous aimez.
Tout à fait.
C'est vrai?
Ouais, bah moi j'ai grandi à l'angle Jean Jaurès, rue Crimée, du coup je sortais de chez moi, oui, la Bracadabar, qui n'est plus la Bracadabar maintenant d'ailleurs, mais voilà, c'était vers chez moi, et du coup moi je prenais mon skate, je faisais 5 minutes en skate, et puis j'étais sur le décor tous les jours, donc c'était pratique.
Déjà vous n'aviez pas de problème pour vous lever tôt le matin?
Ça va.
Mais de toute façon, ouais, vous étiez, étiez dans votre univers, ça vous a aidé, vous pensez?
Ah bah ouais. Ouais, évidemment, enfin, du coup, mon père, il y a un film de moi, genre, 3 ou 4 ans, dans les Buttes-Chaumont, en train de déambuler comme ça, et c'est... J'avais des petits gants de vélo bleus, donc j'étais très fier. c'est chez moi.
Le film commence au Buttes-Chaumont d'ailleurs. Vous êtes dans les Buttes-Chaumont. Il y a quand même tout un travail sur l'image. Il y a un directeur photo, une directrice photo qui s'appelle Céline Bozon, qui a fait un travail magnifique. Alors ça, quand on tourne, on le voit, on sait ce qu'on va... Vous ne voyez pas, vous m'avez dit que vous n'alliez pas voir les rushs.
Je ne regardais pas ce qui se passait. Mais je voyais bien qu'il y avait des lumières rouges, des lumières bleues, des lumières un peu spé comme ça, et qu'il y avait des effets aussi de avec une putain, comment ça s'appelle déjà,
je sais pas, une caméra spéciale
quand il y a l'objectif où il y a une demi
je sais pas trop comment ça s'appelle, personne sait en régie,
il y a une demi lentille quoi, en gros, et du coup la mise au point elle est d'un moitié de l'écran, elle est c'est net à 10 mètres, et là sur l'autre moitié c'est net à 2 mètres quoi.
Putain, je sais plus. Et donc ça c'est pas grave, on fait pas un test, on passe pas le BTS.
Ça me fait chier pour moi.
Et donc donc vous imaginiez les images qu'il allait avoir, vous intriguait.
En tout cas, je me rendais compte qu'il y avait un travail un peu ouvert et un peu libre quoi sur l'image.
Et vous alliez et sur le son aussi. Vous travailliez avec, vous alliez voir l'ingénieur du son.
L'ingénieur du son, il venait surtout me dire. Tu prends l'accent belge ou quoi.
Ah oui, donc vous aviez articulé.
Bah ouais, parce que j'articule, je parle très mal. Je pense que ça va être dur pour les auditeurs de comprendre ce que je dis.
Je sais pas, ça a l'air d'aller là, je pense. Ah. C'est pas sûr. Au moins vous avez une vraie nature, c'est agréable. Donc, prochain film, alors vous allez être Perchman.
Non.
Ça a l'air de vous désespérer.
Non, je suis pas désespéré. Non, mais je vais encore faire l'acteur pendant 2 petits mois.
Vous, ce qui vous plaît vraiment, c'est prendre le son, la prise de son. Ça a l'air tellement ingrat comme métier.
Ouais, ça l'est, ouais.
Et ça vous plaît?
Bah, j'aime. Est-ce qu'on fait un métier pour être gratifié de ce qu'on fait ou pas?
Ah, je sais pas, ça c'est vous qui savez ce que vous avez envie de faire.
Bah, moi je le fais pas pour ça en tout cas. Je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime être sur les tournages, j'aime. Ce métier qui est à la fois dur physiquement, qui demande de la finesse physique et technique. Enfin, c'est un vrai
artisanat. Parce que le preneur de son, en fait, il a la perche dans la main et il tient un bout de bras. Quoi. Il faut qu'il...
Ouais, mais c'est pas que ça. Enfin, tout le monde pense que c'est un métier de brute, mais en fait...
Ah non, je me dis ça.
Non, mais de brute, enfin, c'est physiquement, ça demande effectivement... mais c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de savoir se placer, savoir cacher son ombre, savoir être bien placé tout le temps. Enfin,
Mais ça, c'est un peu un métier d'acteur, finalement, parce qu'il faut savoir se mettre au bon endroit.
Bon, c'est, en fait, tous les métiers du cinéma qu'on ne voit pas, c'est comme ça, savoir se bien se placer. Bon, après, il y a les métiers qui sont plus à même d'être... Enfin, on est vraiment au feu, quoi, parce que si on fait un faux mouvement, bah, ça se voit et tout est niqué, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, le drame du Perchman, c'est qu'on ne voit que quand il fait mal son travail. Tout le reste du temps, quand il fait bien, personne ne se rend compte de rien.
Voilà.
Et on ne pense même pas lui dire merci. Vous avez été dire merci au vôtre sur le tournage ?
Ben non.
Pas du tout, vous n'avez pas
pensé. Ben, on dit pas merci au Perchman, on va pas dire. Enfin, à la fin du tournage, on dit bah, bravo, bien, bien, bien joué, quoi, mais. Enfin, il me dit pas merci pour ma. Enfin, c'est normal, quoi, on fait tout notre travail.
Mm-hmm. c'est comme vous voulez. Vous allez jouer bientôt dans un nouveau film qui s'appelle Les Magnétiques, vous pouvez en parler un peu ?
Oui.
Ah ben, allez-y.
C'est
bizarre. Moi, je suis très heureux parce que je pense que vous êtes un des premiers à vous avoir interviewé et j'adore cette interview depuis le début. Donc, écoutez, elle est très baroque, mais j'adore.
Tant mieux.
Parce qu'elle est vraie. Alors, oui, alors on en parle des magnétiques.
Les magnétiques, ben c'est une histoire qui se passe dans les années 80 entre deux frères dans une campagne française non identifiée. Et qui font de la radio, libre.
Ah bah voilà. C'était moi quand j'étais jeune.
Voilà, c'est ça.
Sans mon frère.
La radio libre où ils passent du punk. Et où c'est l'histoire de deux frères qui tombent amoureux, qui sont amoureux d'une fille. Est-ce que la fille, bah, elle est amoureuse du grand frère stylé.
Et alors vous êtes le grand frère stylé.
Bien sûr que non, moi je suis le petit frère nul.
Non. Et si. Alors moi je vous rassure, dans les années 80, je passais pas de punk, s'il y a des gens qui s'inquiètent. Et là, vous allez faire comment ? Vous n'avez toujours pas pris de cours ? Vous continuez à aller sur le plateau ?
Bah, le truc qui est bien, c'est qu'il continue de ne pas trop parler. Et du coup, ça peut passer par mon articulation pourrie. Et ça marche bien, quoi.
C'est pour ça qu'il vous a pris. Vous avez dit, t'as une articulation pourrie.
Toi, tu parles vraiment comme une merde, je te prends.
Et donc, à la radio, dans les années 80, ils parlaient tous comme ça ?
Mais non, lui, il ne parle pas. Lui, il fait des petits bidouillages de son.
Ah, d'accord. C'est le frère stylé qui est au micro.
Voilà. Et le frère nul, il fait tous les petits bidouillages de Tekos.
Ah oui, donc c'est l'histoire qu'on raconte depuis le début, en fait. Le gars qui voulait faire du son et qui se retrouve devant, finalement...
Du coup, je fais du son devant l'acteur, du coup.
Là, ça devient un peu... Vous n'avez pas la perche, quand même.
Non.
Écoutez, merci beaucoup d'être venu, Timothée Robard. C'est très paradoxal parce que je ne sais pas si je dois vous souhaiter une carrière d'acteur.
Non, vous pouvez me souhaiter bonne chance ou bonne vie, à la limite.
Je vous souhaite une belle carrière de Perchman.
Une belle carrière.
Voilà, une belle carrière de faire des choses qui vous plaisent et qui vous intéressent. Merci beaucoup d'être venu à Radio Campus Paris aujourd'hui.
Bah, avec plaisir et bonne carrière à vous.
On va essayer de continuer. Merci beaucoup. Je suis très content d'avoir repris cette quatrième année avec vous. Vous venez d'écouter La Relève, c'était le premier épisode de la saison 4. La présentation était assurée par Christophe, celui qui articule un peu aussi, comment vous dites, comme une merde, hein, c'est ça. La réalisation était signée par Antonin. Si vous avez de l'oreille, ça se reconnaît tout de suite, une réalisation signée Antonin. Cette année, on se retrouve presque toutes les semaines, donc on se retrouvera aussi la semaine prochaine. Toutes les émissions de La Relève sont sur le site de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. Bonne semaine.